Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. L'étape universitaire, image des premiers jours et des années qui suivent, est une exposition réalisée à partir d'une enquête menée par Catherine Becher et Hubert Krukowicz, sociologues au Clercé, et la participation de Carl Cordonnier, photographe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnes pour parler de ce projet et de voir aussi à quoi elle correspond, à quelle attente, peut-être, je ne vais pas dire déjà quelle conclusion, mais peut-être quelle réflexion aussi cette exposition commence à susciter, puisqu'elle est présentée depuis quelques jours à l'espace culture de l'Université Lille 1. Hubert Krukowicz, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes sociologue au Clercé, tout comme Catherine Becher, qui nous rejoindra dans quelques instants.
Oui, lorsque Catherine et moi avons commencé à réfléchir sur l'université, on voulait rendre compte d'une université habitée et qui fait partie du monde. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est une évidence, hein. Mais c'est une évidence qui est quelquefois un peu oubliée, étant donné qu'on considère peut-être d'une manière privilégiée l'institution et qu'on met entre parenthèses le monde qui est le monde des gens qui justement habitent cette institution.
Je m'appelle Audin, je vais vous présenter le témoignage de Alexandre. En début d'année, il a fallu donner un coup de collier parce que tout était nouveau. Par exemple, j'ai servi de GPS à mes amis. Ils ne sont pas très doués pour se repérer sur le campus. Côté enseignement, maintenant, je me rends compte qu'en renvoyer des notions déjà apprises. Depuis 3 semaines, je comprends mieux la progression des cours. J'ai organisé un système qui me permet de faire le pont entre les polis, les cours oraux et les notes prises.
Alors dans le cadre de cette réflexion, on avait déjà travaillé sur une autre exposition qui a eu la chance d'être montrée sur le campus et qui s'appelait Le Campus Autrement, hein, et qui s'intéressait à l'imaginaire des usagers du campus pour montrer justement que la pratique d'un territoire est accompagné de représentations et d'une manière de traiter l'espace qui l'aménage ou le transforme, hein. Donc c'était une première réflexion sur l'université habitée. Ensuite on a continué dans cette voie en disant mais qui habite de manière privilégiée l'université si ce ne sont les étudiants, et c'est ainsi qu'on a eu le projet de faire un travail sur l'entrée à l'université, étant donné que l'entrée est un moment privilégié où les problèmes se posent et sont peut-être plus conscients, plus exprimables.
Je m'appelle Thomas. Je vais vous présenter le témoignage de Christophe. Au début, dès que je ne voyais plus la bibliothèque universitaire, je me sentais perdu. Il faut apprendre à gérer l'espace et le temps, à connaître l'université, parce que le campus est vraiment grand. Si on oublie une lettre ou un chiffre dans la dénomination des bâtiments, on ne les repère plus sur un plan. J'ai essayé de trouver mes marques, de rencontrer des potes, des profs. À la rentrée, j'avais une veste très colorée. J'adore les couleurs. Aujourd'hui, je me mettrai en noir et blanc parce que j'essaye de m'intégrer aux autres.
Donc cette exposition a été présentée, j'allais dire, dans une première version au SUIO. On la voit maintenant à l'espace culture. Qu'est-ce qui a changé, à part le titre déjà ?
Le titre, on a essayé, on a réfléchi ensemble, et le titre voudrait rendre compte de la d'une grande part de nos intentions. Et il me semble qu'il y a dans ce mot, dans ce titre, deux mots importants. C'est étape, hein, l'étape universitaire, et le mot image. Commençons par étape. Étape, ça veut d'abord vouloir dire que on s'intéresse aux étudiants, parce qu'il est bien évident que l'université n'est une étape que pour ceux qui la traversent, hein, et pas du tout pour ceux qui y travaillent ou y demeurent longtemps. Donc ça renvoie à étudiants. Et le mot étape a deux acceptions qui sont toutes les deux intéressantes. Étape, ça peut être un arrêt, hein, c'est un moment particulier, on fait étape, et ça renvoie à la temporalité un peu particulière de l'université. On considère d'abord la temporalité de l'université, mais l'étape, c'est aussi le rapport entre deux autres périodes, hein. C'est une étape est aussi une transition, et là aussi on est sur un problème intéressant, c'est-à-dire l'université est transition entre quoi et quoi, entre bien entendu l'enseignement secondaire et la vie active, ou entre l'enseignement secondaire et d'autres formations. Donc le mot étape renvoie déjà à une série d'options qui sont intéressantes à creuser. La temporalité, l'accent sur la temporalité me semble une chose importante, parce qu'on sait que les problèmes d'autonomie des étudiants, de stratégie d'études, de conception de l'avenir ou de d'angoisse du futur sont bien des problèmes liés à une certaine temporalité, à un certain moment de la vie. Hein. Deuxième mot important, c'est le mot image, et vous pouvez voir que dans le sous-titre, on a bien entendu référence directe à cette temporalité, puisqu'on a image des premiers jours et des années qui suivent. Donc on met bien le doigt sur une certaine temporalité qui est la temporalité universitaire. Mais d'abord, le mot image, il a été choisi délibérément, parce que l'image, c'est une entité intéressante qui renvoie à un phénomène sans le reproduire. L'image est toujours ressemble au phénomène, mais pas tout à fait. Elle rencontre simplement de certains de ces aspects, et surtout l'image renvoie à l'absence du phénomène. C'est-à-dire que quand on consulte l'image, c'est que le phénomène est absent, et on en regarde une représentation. Alors, c'est cet aspect de l'image qui est absence et écart avec la réalité, qui nous intéresse, parce que c'est un problème de distance. Je dis sous forme de plaisanterie que lorsqu'on embrasse quelqu'un, on ne le voit pas, hein. C'est-à-dire que le voir et l'observer, c'est une question de distance, et c'est bien le problème du sociologue, hein, de se mettre à la bonne distance pour pouvoir décrire quelque chose. Donc en mettant en œuvre des images, on introduit justement cet écart, hein, qui nous permet de voir certaines choses, bien entendu, et qui permet, lorsqu'on retourne au phénomène lui-même, de peut-être avoir une perception un peu différente. C'est-à-dire l'utilité de ce qu'on fait, c'est bien de faire le pari que lorsqu'on aura discuté de notre exposition, on aura un peu changé ses vues sur un certain nombre de problèmes universitaires. Alors soyons modestes, hein, c'est tout à fait relatif. Mais retenons une chose qui me semble importante. Le monde étudiant nous est particulièrement familier parce que on baigne dedans. Hein, c'est-à-dire, on vit à l'université avec des étudiants. Tous les ans, on voit une vague d'étudiants arriver. On dit elle est à peu près pareil que la vague précédente. On la voit passer, on la voit disparaître. Et ça, c'est pour ça que l'étude de cohorte dont on va parler tout à l'heure est particulièrement intéressante, parce que ce qu'elle va montrer, c'est ce qu'on ne voit pas directement. Hein. Donc, il faut rompre, si on veut bien comprendre les étudiants, il faut rompre d'abord avec cette familiarité, et c'est pour ça qu'on est passé par des images.
Alors, effectivement, dans l'exposition, il y a de nombreuses images. Quelles sont-elles? Qui les a prises? Dans quel but?
Justement, on renvoie toujours au même problème qui est le problème de l'observation. Hein. On a utilisé trois types d'images. D'abord, la plus évidente, Catherine va vous en parler, c'est les instantanés, les portraits, hein, les portraits d'étudiants, ce qui est ce qu'on pourrait appeler une image reproductrice. Souvenons-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, une image n'est jamais une reproduction au sens strict, mais toujours une interprétation. Mais disons qu'un instantané tiré le portrait d'une personne reproduit les traits de cette personne et la manière dont cette personne se présente. Hein. Donc premier type d'image, tout simplement la photo, hein, qui on parlera tout à l'heure des interventions de Karl Cordonnier, hein, photo prise par Karl Cordonnier. Le premier type d'image, c'est une image qu'on pourrait appeler reproductrice. Deuxième type d'image, alors là dans l'exposition, il faut s'avancer vers le fond de la salle, et on a un deuxième type d'image qu'on pourrait qualifier d'image mentale, c'est-à-dire qu'on a demandé aux étudiants d'élaborer une photo rendant compte de leurs expériences d'entrée à l'université, et cette photo est accompagnée de paroles, elle a été commentée par les étudiants eux-mêmes. Voilà, c'est cet ensemble-là, hein, photo plus discours, c'est un ensemble indissociable, hein, renvoie à une image mentale. C'est ce que les gens, à un moment donné, ont compris et vu de l'université. Donc, deuxième type d'image qui est différent de l'image strictement reproductrice. Troisième type d'image, et là aussi on va vers un domaine différent, hein, mais toujours en restant dans l'image, ce sont les schémas et figures de l'étude statistique de l'OFIP. Là aussi, il s'agit d'images. Alors, ces images sont très très particulières puisqu'elles sont un mixte de concepts et de figurations. Hein. Mais c'est un type d'image qui renvoie à une catégorie d'images que sont les images scientifiques avec des médiations techniques importantes. Et dont l'objectif est là une connaissance des phénomènes, connaissance scientifique. Donc on a trois types d'images, hein, une image extérieure qui est la présentation des étudiants, une image qui rend compte de l'intériorité des étudiants, et un troisième type d'image qui est la compréhension scientifique des destinées étudiantes à l'université. Et c'est la mise en rapport de ces trois types d'images qui nous permettra, j'espère, de progresser, hein, dans cette idée de université habitée, c'est-à-dire de comprendre un peu comment les populations sont à la fois traitées par l'institution et comment de par leur stratégie, de par leurs leur ressources, comment elles se conduisent et finalisent leur, leurs actions. Alors, on peut se poser la question, pourquoi tous ces efforts et pourquoi toutes ces images, pourquoi avoir été chercher un photographe, Carl Cordonnier, pourquoi s'être appuyé sur une étude importante de l'OFIP faite par Martine Cassette et Eric Grivillers, pourquoi se donner ce mal alors que on pourrait parler des étudiants autrement. Alors ça renvoie aussi à une préoccupation qui est peut-être la préoccupation plus spécifique des sociologues, c'est comment faire pour ne pas se substituer aux personnes que l'on étudie. Alors là, il y a une très belle citation de Deleuze que je répète à l'envi parce que elle me semble très exacte. Et Deleuze dit à peu près que justement pour ne pas prendre le risque de parler à la place des personnes que l'on observe, il faut faire l'effort, il faut tenter de devenir étranger à son propre langage. Pour nous, ça correspond à des choses bien précises, c'est-à-dire que devenir étranger à son propre langage, c'est multiplier les approches techniques différentes et les croiser pour, à la fin, essayer d'obtenir une vue la plus exacte possible des choses que l'on observe. Donc, en ayant recours à des vues différentes, qui sont des vues statistiques, des vues artistiques et d'autres choses si possible, tout ce qu'on fait, hein, c'est devenir étranger à notre propre langage, ne pas risquer de parler à la place des personnes concernées et arriver à une vue la plus précise possible du phénomène.
Je m'appelle Grégoire. Je vais vous présenter le témoignage de Clément. Au début de l'année, il y avait la découverte. Un copain avait son appart, j'allais chez lui. Au lycée, ça n'arrivait jamais d'aller dans un appart durant la journée. Mais ce côté un peu fou retombe vite, il faut relativiser. Être à Lilin à 20 km de chez moi, il n'y a alors rien de fou. C'est pour cela que je viens moins en ce moment. Je suis lassé de faire le trajet tous les jours. Au début, je le faisais parce que je savais que tous les jours, j'allais découvrir quelque chose. Je suis venu comme tout le monde, entrer dans un moule. Pour moi, l'université s'est banalisée.
Catherine Bécher, bonjour.
Bonjour.
Donc vous aussi, vous êtes sociologue au CLERCE, qui veut dire...
Le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Cette exposition est le résultat de la collaboration de beaucoup de personnes. D'abord, il y a les étudiants, il y a des services de l'université, l'espace culture... et aussi des personnes qui sont à l'extérieur de l'université et qui sont Carl Cordonnier et l'ACSE, qui est l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Voilà, donc on a parlé d'images. Ces images concernent a priori d'abord des personnes qui servent à un projet. Ces personnes, comment vous les avez choisies?
Alors, on a pris contact avec deux services de l'université, le SUIO, service universitaire d'accueil, information, orientation, et le service universitaire pédagogique, pour voir comment monter la possibilité d'intervenir les premiers jours d'arrivée des étudiants. Les néo-bacheliers, ceux qui sortent du bac et qui arrivent à l'université. On a travaillé aussi avec les professeurs responsables de L1, c'est-à-dire licence 1. Donc, la procédure a été la suivante. Nous sommes intervenus avec Carl Cordonnier dans les amphis de la semaine de pré-rentrée. Nous avons expliqué d'abord ce qu'on voulait, c'est-à-dire des étudiants volontaires pour être pris en photo, et on leur passait un questionnaire. Ensuite, on leur disait, bon, on reprendra contact avec vous dans 2-3 mois, et vous nous raconterez un peu ce qui vous est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez vécu ce passage entre le secondaire et le supérieur. On a réussi à capter 50 étudiants. Alors, il faut dire qu'on est intervenu dans toutes les filières de l'université, c'est-à-dire on est allé en sciences, en SVT, en géographie, en sciences économiques et en sociologie et en géographie. C'est-à-dire que nous avons des étudiants de toutes les filières. Alors, première semaine, on les prend en photo, debout, ils se présentent tels qu'ils sont arrivés à l'université, c'est-à-dire habillés d'une certaine façon. Et on leur a posé une série de questions pour savoir d'où ils étaient, d'où ils venaient, quelles étaient leurs caractéristiques sociales. 3 mois après, on reprend contact avec eux. Et sur les 50, il y en a 30 qui acceptent un entretien réalisé alors avec le photographe. Et à ce moment-là, chaque étudiant nous explique et nous raconte ce qu'il a vécu pendant ces 3 mois-là, ses difficultés, ce qu'il a trouvé bien, comment il a vécu ce temps-là. Et à la fin de l'entretien, on lui demande de réfléchir à une photo, surtout à une situation qui rendrait compte de ce qu'il a marqué le plus et qui qualifie le mieux cette période vécue de 3 mois à l'université. Donc, c'est à ce moment-là que Carl Cordonnier et l'étudiant travaillent à la conception de la photo. Donc voilà, le matériel, c'est donc une photo en pied, des textes, enfin des discours qui ont été tenus, et une deuxième photo qui est cette photo où l'étudiant révèle quelque chose de son expérience et aussi de son intériorité, c'est-à-dire comment il a incorporé cette nouvelle expérience.
Je m'appelle Jérémy, je vais vous présenter le témoignage de Clément. En amphi, je me retrouve avec mon groupe d'amis. Je m'arrange pour avoir une place vide à côté de moi pour étendre mes jambes. J'ai l'impression que d'être assis en groupe nous rassure et nous protège. L'ambiance entre nous est bon enfant et quand le cours ne nous accroche pas, on se lâche un peu en racontant des blagues et des conneries.
Donc effectivement, l'exposition reprend tous ces éléments. Les textes qu'on voit, ce sont des textes qui sont tenus en intégralité ou ce sont des éléments reconstitués à partir d'une interview qui a été faite?
Alors voilà, les textes en fait ont été tirés des entretiens qu'on a eus. Il faut remarquer que les textes ont trois thèmes. Le premier texte est sur le passage du secondaire à l'université. Le deuxième texte a pour thème la vision de l'avenir. Le troisième texte a pour thème le sens à donner à la photo. Parce que une photo, pour quelqu'un qui la voit, peut avoir un sens qui ne correspond pas du tout au sens que la personne qui l'a conçue voulait lui donner. Donc, le troisième texte donne le sens de la photo pour la personne interviewée.
Je m'appelle Théo, je vais vous présenter le témoignage de Geoffroy. L'amphi, j'y passe mal de temps. Il y a plein de monde et au final, pas de communication, car les professeurs ne veulent pas qu'on parle. Au niveau cours, tout se passe bien, mais je souhaiterais plus de participation. Il y a un professeur qui parle et de temps en temps, un élève qui dit quelque chose. On est un peu chacun à sa place, il n'y a pas d'échange.
Merci Catherine Bécher. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser un petit peu ce que les visiteurs vont voir quand ils seront entrés dans l'espace culture par rapport à cette exposition ?
Eh bien voilà, quand on arrive à l'espace culture, la première chose qui frappe, c'est que on se retrouve face à des portraits d'étudiants sur des voiles et qui sont placés légèrement plus haut qu'à notre hauteur, mais qui restent complètement proches de nous. Ils sont placés, ces voiles, sur une série de cinq niveaux, et donc quand on arrive face à la salle d'exposition, on est en fait en face d'un ensemble. Et en même temps, quand on traverse ces voiles, on peut les pousser, et donc c'est un ensemble qui se laisse traverser. Quand on a traversé les voiles, on se retrouve devant une vidéo qui présente le sens des deuxièmes photos où l'étudiant a exprimé ce qu'il avait ressenti pendant ses premiers mois d'adaptation à l'université. Et quand on continue, parce qu'il faut continuer, au bout de la salle, il y a une petite salle où la lumière est tamisée. Et là, quand on rentre dans cette petite salle, on voit un grand cube. Et sur ce grand cube, des livrets sont posés. Et chaque livret, en fait, reprend le matériel de chaque étudiant. D'abord, on a un prénom. On a la photo de son arrivée la semaine de pré-rentrée. On a les trois textes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à la fin, le livret est clôturé par la photo qui rend compte de sa façon d'appréhender son nouveau statut. Donc, dans cette petite salle, on va vers plus d'intériorité de chaque étudiant. C'est-à-dire, on les a vus comme un collectif au début de la salle, et progressivement, on va vers quelque chose de plus intime sur l'étudiant. Alors, quand on sort de la salle, on retraverse les voiles, on voit les étudiants d'ailleurs sous un autre angle. On repasse à travers les voiles et on arrive dans un sas où pendent deux choses, un voile d'étudiant et aussi un grand carré vert. Et là, sur la droite, un grand couloir s'offre à nous, qui est clôturé par deux autres voiles d'étudiants à la fin du couloir. Et là, on voit des deux côtés des figures géométriques, des carrés, des rectangles, des schémas, des marques régulières sur le sol, qui semblent renvoyer à un traitement autre de la population. Alors, cette population, c'est une population qui est arrivée comme primo entrant à Lille 1 en 2004 avec ses caractéristiques sociales. Et nous allons voir un peu comment elle évolue au cours de 6 ans. C'est-à-dire, c'est un suivi de cohorte dont Martine Cassette et Eric Rivillers vont nous parler maintenant.
Je m'appelle Denis, je vais vous présenter le témoignage de Vincent. Au lycée, les différences sociales apparaissent moins. Ici, des étudiants vivent en appartement, d'autres chez leurs parents. Ils peuvent venir de l'île Maurice, du Maroc, ils ont des niveaux de vie et des manières de vivre différents. Ça fait un melting pot intéressant. Ces différences peuvent donner l'impression que chacun est dans une bulle, avec ses valeurs, sa vision de la fac et sa manière de réagir bien particulière. Trouver ma place parmi les autres me préoccupe plus que l'enseignement lui-même.
Donc Martine Cassette et Eric Rivillers, vous êtes donc responsable, vous travaillez au niveau de l'OFIP. L'OFIP, c'est ?
L'Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle à Lille 1.
Voilà, donc on observe, on chiffre aussi ?
Oui, bien sûr.
Donc effectivement, à quoi ça sert les chiffres dans ce dispositif dont on vient de parler ? Pourquoi des chiffres ?
Il s'agissait finalement d'illustrer d'une autre façon les étapes étudiantes à l'Université de Lille 1. Et je pense qu'avant de parler de résultats, on peut peut-être montrer l'originalité de la démarche d'abord, parce que faire appel à des statisticiens pour une exposition culturelle, c'est quand même pas si courant que cela. Et puis ensuite, l'originalité de cette étude, parce que à l'Observatoire de Lille 1, on passe une partie du temps à travailler sur l'insertion professionnelle des diplômés, mais on suit aussi régulièrement les étudiants, et notamment cette population, comme le signalait Catherine, d'étudiants 2004 ayant eu leur bac en juin et entrer en première année de licence en septembre. C'était quelque chose qui était assez nouveau dans son organisation, puisque on a pris cette cohorte d'étudiants et on les a suivis pendant plusieurs années, actuellement pendant 6 années. Et on les a suivis non pas seulement quand ils sont restés à Lille 1, parce que ça c'est très facile, il suffit de regarder les fichiers d'inscription, mais on les a suivis surtout aussi quand ils étaient sortis de Lille 1. Et dans la logique du LMD, ils peuvent sortir à tout niveau de leurs études. Donc aujourd'hui, effectivement, 6 ans après, on continue à suivre cette cohorte. Alors c'était un travail ambitieux, bien évidemment, et on connaît encore aujourd'hui 80% de cette population.
Eric Rivillers, vous aimez les chiffres, visiblement. C'est de quoi en faire un métier. Hein ?
Entre autres, oui.
Donc ces chiffres que vous êtes appropriés, que vous donnez à voir, et même peut-être à lire, voire à déchiffrer au public, ils concernent qui et quoi ?
Comme l'a dit Martine, il concerne donc des bacheliers. C'est la grande caractéristique commune de cette population, bacheliers 2004. Et ensuite, ces bacheliers se sont dispersés et dans leur formation et dans leur parcours d'insertion. Peut-être peut-on dire, en rebondissant sur la phrase ou l'expression d'Hubert tout à l'heure, il parlait de l'université comme un espace de transition. De rebondir sur ce qui se passe à la fois en première année et ce qu'on voit, on va dire, au fil du temps. Espace de transition, l'université l'est indéniablement en première année. On sait bien que des gens rentrent chez nous en ayant éventuellement été refusés dans une autre formation, en ayant un projet d'études ou d'insertion professionnelle très flou. Et la première année à l'université sert à la fois à débuter un cursus, mais aussi à maturer, on va dire, un projet étudiantin, à un projet professionnel, et éventuellement donc à permettre une orientation une réorientation dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'a montré en particulier la première enquête qui a été réalisée suite au départ des personnes qui ont été chez nous qu'une année. Ces personnes, pour 70% d'entre elles en tout cas, réalisaient en deuxième année le projet qu'elles souhaitaient réaliser après leur bac. Ils n'avaient pas pu le réaliser pour un certain nombre de conditions, souvent un parcours scolaire un peu chaotique et d'autres facteurs. L'université, donc la première année de l'université leur a permis de développer leur projet, de développer, même si c'est un peu paradoxal, leur CV, parce qu'en général, ils n'ont pas obtenu leur première année, et pourtant, ils arrivent à intégrer des classes, en particulier des BTS ou des classes de DUT, qu'ils n'avaient pas pu intégrer après le baccalauréat, et ainsi se retrouver dans la formation désirée au départ. Cette première année, qui est souvent présentée d'ailleurs par vous autres journalistes comme une année d'échec, s'avère en fin de compte, pour beaucoup, une année de, on va dire, positive, dans la mesure où justement ils arrivent à trouver leur voie et être acceptés dans cette voie. Pour appuyer ces dires, il faut savoir que près de 40% des gens qui ne sont plus chez nous après un an et qui avaient en grande partie échoué à leur première année ont une image positive, jugent positivement leur première année. Ils ont pu bien sûr faire de nouvelles connaissances, mais aussi découvrir le monde étudiant, voir comment on y travaille, gagner en autonomie, parfaire leur projet. Et donc, ce qui semble être parfois un échec s'avère en fait le plus souvent une réussite en termes de projet. L'autre image qu'on peut avoir de l'espace de transition de l'université, c'est ensuite la dispersion qu'il y a au fil des années. Contrairement à d'autres formations dans lesquelles les étudiants entrent pour un jour sortir diplômé et ensuite s'insérer professionnellement, l'université pour beaucoup est un espace de transition où on vient acquérir une formation, bien sûr des diplômes, et qui permet de rebondir et de s'inscrire dans d'autres formations pour acquérir d'autres diplômes. Ou bien sûr qui permettent de s'inscrire à un certain nombre, par exemple, de concours administratifs, de suivre là aussi d'autres formations professionnelles et d'exercer plus tard un métier. Et c'est l'intérêt de notre étude est celui-là. Il montre bien comment, au fil des années, les gens prennent le temps qu'il faut. Ils ne traînent pas, mais ils prennent le temps et le temps qu'il faut pour réaliser leur projet d'études et leur projet d'insertion professionnelle.
Donc, quand on parle d'études tout au long de sa vie, on peut aussi faire des pauses ou consacrer des moments qui peuvent durer parfois un an ou un peu moins peut-être à un repositionnement.
Oui, c'est tout à fait le cas. Bon, déjà pour la première année, mais parfois aussi dans les années qui suivent. Cela étant, il faut quand même savoir qu'on n'est pas comme dans d'autres systèmes de formation. En France, on a un peu tendance à courir quand même après le diplôme. Et donc, quand on rentre dans une formation, on essaye de vite en sortir et d'en sortir positivement. Cela étant, les arbres auxquels on arrive, les arbres de dispersion des populations auxquels on arrive, montrent bien l'hétérogénéité des parcours. Et en cela, malgré qu'on travaille en statistique sur des masses d'étudiants importants et des groupes d'étudiants, eh bien, cette enquête permet de suivre quasiment des parcours individuels et montrer l'ensemble des projets et des façons d'atteindre un projet.
Je m'appelle Florian. Je vais vous présenter le témoignage de Maxime. Je ressens un peu de déprime finalement, parce que je ne suis plus à Paris. Je n'ai plus de contact avec les gens avec qui j'étais l'année dernière. Je vois mes parents toutes les deux semaines. Quand je rentre à Paris, le week-end est une coupure. J'oublie. J'utilise ce temps comme une barrière entre deux semaines de cours. Dans ma tête, le jeudi, je suis déjà parti vers Paris. Je fais déjà mon sac le jeudi soir. Je prends ce sac avec moi le vendredi matin pour aller en cours parce que je ne peux pas me permettre d'aller le rechercher.
Je crois qu'on peut conclure sur l'intérêt que peut avoir cette exposition, parce que revenons un peu à l'exposition qui est proposée aux visiteurs. Les résultats dont on a fait état, les propos des étudiants, les images, les différentes images de la population étudiante, tout ça a un seul but, un seul intérêt, c'est justement d'animer un débat sur l'université, débat qui peut aussi enrichir la manière dont on accueille justement les primo-entrants. Hein. Mieux on aura compris cette population et mieux on aura compris ses difficultés et ses destinées scolaires, plus à même on sera de l'aider à surmonter à certains obstacles liés justement à la nouveauté de l'institution et à l'obscurité parfois de son fonctionnement.
Hubert Krukowicz, merci. Donc effectivement, cette exposition est visible actuellement. Profitez de la journée portes ouvertes, donc aussi, si vous le souhaitez, pour visiter l'Université Lille 1 et voir cette exposition. Une émission spéciale portes ouvertes, d'ailleurs, sera consacrée dans ce magazine Lille 1 Info le mercredi, donc celui qui précède les portes ouvertes donc du 29, c'est-à-dire le 26 janvier à 17h30. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine Lille 1 Info sur Radio Campus 106,6 FM.